L'œuf et la poule, Olivier Horry.
Bienvenue dans l'œuf et la poule, si possible, pour cette nouvelle émission philosophique. C'est la conversation philosophique avec, je suis en bonne compagnie ce mois-ci, encore une fois, puisque je suis avec Odile Autré. Et nous avons décidé ce mois-ci de parler de la morale. Peut-être qu'effectivement, un certain nombre de questions se posent sur ce sujet ô combien ample et vaste.
Bonjour. Alors, une des questions qui pourrait se poser, comment on pourrait définir la morale? Est-ce que ce serait faire le bien? Est-ce que ce serait plutôt penser au bien commun? Et comment on peut orienter ses choix dans cette direction?
Oui. Le mot moral, d'ailleurs comme le mot éthique en grec, c'est un peu le même mot, ça désigne le comportement. Et la morale paraît être une discipline de la pensée, d'abord, qui a pour vocation de dire pas forcément le bien, le mal, mais de distinguer ce qui se fait de ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'effectivement... l'homo sapiens, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler quand nous avons évoqué la question du langage, par exemple, ou justement la distinction entre l'homme et l'animal. L'homme se distingue peut-être du fait du reste du règne de la nature. Il se distingue peut-être du fait qu'il a une marge d'action assez large. L'homo sapiens, c'est un peu... l'animal des possibles, qui a toujours un spectre de pensée, de parole et d'action possible. Et la morale donc qui désigne en latin les mœurs, en grec le comportement, la morale c'est cette discipline de la pensée qui s'avise de voir si on peut distinguer les choses à faire des choses à ne pas faire. Je crois que c'est à ça, peut-être plus que directement la question du bien et du mal.
Oui, ce qui se fait ou ce qui ne peut pas se faire en fonction de ses propres valeurs. Où est-ce qu'on s'attend à trouver des valeurs partagées, des valeurs absolues?
Je crois que la morale, devant régler notre pensée, notre parole, comme ici, maintenant, et notre action... la morale se doit nécessairement d'être partagée. Ce qui ne nécessite pas a priori les doctrines qui n'ont peut-être pas besoin de se partager, ce sont nos postures, je dirais, spirituelles, mystiques. Si je suis athée, je me pose tout seul face au néant. Si je suis croyant, je me pose tout seul face à ce en quoi je crois. Mais ce que je pense devoir être fait ou pas, ça engage nécessairement les autres. Soit que je sois en train de penser, de parler ou d'agir avec eux, soit contre eux, soit à côté, pas très loin d'eux. À chaque fois, bien entendu, dans ma représentation morale, il y a une représentation de l'autre. Donc, pour que l'action soit favorisée par une morale, il faut qu'elle soit partagée, je dirais, au minimum par deux personnes, quoi. Au minimum, mais de préférence au moins par trois.
Donc, ce sera toujours quelque chose qui sera supérieur aux intérêts personnels, y compris aux intérêts personnels additionnés, on va dire. Ça sera toujours quelque chose qui dépasse... l'individu qui dépasse le petit groupe restreint qui peut être concerné immédiatement.
Oui, je crois que vous faites bien de dire que un précepte moral, il dépasse les ambitions, les désirs personnels, dans la mesure où justement le précepte moral, il a pour vocation de les régler. ses désirs et ses ambitions et ses comportements personnels. Donc il ne pourrait pas les régler s'ils étaient, ces préceptes, la pure émanation du désir individuel, personnel lui-même. Dès lors, je trouve intéressant le supplément dans votre propos qui consiste à dire même pas l'addition d'intérêts personnels singuliers qui formerait à la fin une règle de morale générale. Je crois qu'effectivement, les intérêts égoïstes, à cause de leur nature égoïste et singulière, ne peuvent pas s'additionner de manière... Je crois que leur addition ne donnerait qu'un chaos. Ne se donnerait qu'un chaos de désir et qu'un chaos de comportements contradictoires, dysfonctionnels, enfin, etc. Non, il faut effectivement qu'à un moment donné émergent un certain nombre de règles, de préceptes, qui, comme vous le dites très bien, dépassent chaque individu et peut-être même le rassemblement d'un certain nombre d'individus pour en régler le comportement.
Est-ce que c'est un concept universel ou à peu près universel? Est-ce qu'on retrouve ce fonctionnement, cette espèce de morale supérieure, si on peut dire? Est-ce qu'on la retrouve un peu partout? Ou est-ce qu'il y a des peuples qui ont réussi ou qui réussissent encore à vivre tout à fait en dehors de ce fonctionnement-là?
Alors là, effectivement, c'est vraiment une question qui, moi, me fascine. En préparant cette émission, j'essayais de me faire une sorte d'histoire des idées morales à travers l'humanité, etc. Bon, peu importe ce qui ressort de cette tentative de faire une histoire des idées morales, c'est un petit peu présomptueux quand même, je pense. Mais je crois qu'à la source de toutes les morales, il y a, depuis les morales antiques, comme une nostalgie d'un état de nature de l'homme où, sans règle morale aucune, et tout à fait spontanément, les hommes se régleraient leur conduite. Comme si, dès l'Antiquité, était née une sorte de nostalgie d'un état un peu paléolithique. Et ça serait la période néolithique qui nous aurait détaché de cette vie naturelle pour rendre indispensable l'élaboration de lois morales pour nous diriger. Et du coup, réponse enfin à votre question avant qu'on s'arrête deux secondes. Du coup, effectivement, autant cette nostalgie d'un état de nature est universelle, autant la nécessité de passer un certain nombre de règles morales semble s'être imposé universellement.
Thank you.
Hans avec Eddie Gomez à la contrebasse et Elliot Zygmunt à la batterie. C'était B minor Waltz, album You Must Believe in Spring. Nous sommes réunis dans ces studios pour une conversation philosophique, l'œuf et la poule. Ce mois-ci, à propos de morale, vaste sujet que nous ne prétendons pas épuiser, mais sur lequel nous échangeons quelques points de théorie possibles.
Alors, on était toujours donc à propos de la morale. Est-ce que ça peut être la condition de la survie d'un groupe? Un groupe, une nation, un groupe ethnique, un groupe philosophique quelconque. Est-ce que ça peut être une condition de sa survie? Ou est-ce que l'absence peut être délétère ou compensée par autre chose? D'autres croyances, des croyances par exemple.
Ouais. C'est une question, d'un point de vue d'ailleurs historique et même ethnographique, c'est une question, je pense, on serait bien présomptueux de penser qu'on puisse y répondre définitivement. Ceci dit, j'aurais une petite tendance à opérer pour Homo sapiens un repli sur les théories de l'évolution, pour dire que finalement, là où le désir a pris la place de l'instinct chez l'homme, lui offrant comme ça une palette de possibilités presque illimitées. Palette d'ailleurs augmentée par l'augmentation de notre puissance, de la puissance que nous avons à notre disposition. Je pense qu'effectivement, pour pallier à l'absence de limites instinctuelles, il est tout à fait nécessaire que nous élaborions des règles de conduite. Et je crois que c'est vrai. Déjà, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, il me semble que c'est déjà vrai de l'individu. C'est-à-dire qu'un individu qui ne se donnerait aucune règle de conduite personnelle quotidienne, hein, bon, peut-être aussi au cours de sa vie, en anticipant plus longuement, etc., mais un individu qui ne se donnerait aucune règle de conduite personnelle quotidienne, je ne sais pas s'il ne se prendrait pas assez rapidement un mur, quoi. D'ailleurs, ce mur, ça serait peut-être même lui-même. Il y aurait une espèce de collapsus comme ça du bonhomme qui, effectivement, serait livré à ses propres indécisions ou à ses propres excès, ou à ses propres manques, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre au groupe, comme vous le faites, et quelle que soit la dimension de ce groupe, et se dire qu'on voit mal comment on pourrait tenir... On va être simple, hein, comment pourrait tenir un couple, une poignée d'amis, à plus forte raison, une association, une nation, une communauté fédérale d'État, enfin, je veux dire, comment ça pourrait tenir sans un certain nombre de règles? Et ces règles, évidemment, ça peut être les lois, ça peut être exécuté par une armée, enfin bon, évidemment, mais antérieurement à ça, il faut bien des règles qui nous habite un peu et que nous incarnons un peu réellement. Il faut se lever le matin avec l'idée que dans sa journée, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. C'est aussi bête que ça, et que ça soit au plan strictement individuel comme sur un plan plus collectif. Et quel rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution des espèces, à l'instant du moins, eh bien, l'élaboration d'une représentation morale du monde avec des valeurs et des hiérarchies, c'est peut-être la petite variation avantageuse qui est obligée de se trouver l'humanité pour continuer d'une certaine manière. Donc oui, j'ai l'impression que c'est universel et qu'en même temps, c'est presque naturel, quoi.
Et ça passe... Mais du coup, ça nécessite la transmission, ça nécessite un langage élaboré, un langage qui ne soit pas purement factuel, mais qui soit dans la transmission des valeurs.
Ouais.
Et c'est là où ça... Enfin, c'est difficile de savoir depuis quand ces morales elles sont mises en œuvre, mais ça doit s'être fait en parallèle avec une évolution du langage.
Oui, je pense d'ailleurs, si on reste cohérent avec ce que nous avons pu dire sur l'homme et l'animal et sur le langage, je pense que l'humanité est inséparable du langage, et d'un langage, je dirais, à chaque fois complet, d'une certaine manière. Et effectivement, la morale venant régler une marge de possible, il est évident que sa transmission passe par l'explication. Il ne va pas y avoir de transmission héréditaire des règles morales. Donc il va bien falloir les transmettre, et vu le degré de sophistication, les transmettre par le langage. Et le problème étant, mais ça on le sait bien, que moraliser un individu, ça peut passer par une subtile utilisation du bâton et de la carotte. C'est-à-dire on peut faire craindre à l'individu que si il fait ce qu'il ne faut pas, ou s'il ne fait pas ce qu'il faut, il va être sanctionné, je dirais, presque physiquement. Hein. On peut aussi lui faire miroiter le fait que s'il fait ce qu'on lui demande de faire, et s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de ne pas faire, eh ben, il sera récompensé. Il y aura donc une source de plaisir, etc. Il semblerait, je crois que tous ceux qui ont fait un petit peu de pédagogie, ou qui ont eu à s'occuper de gens, enfin, etc., que le bâton et la carotte ont leurs limites quand même. C'est-à-dire qu'une règle qui n'est absolument pas comprise, une règle dont on ne voit absolument pas la légitimité ou bien fondée, elle est mal appliquée, elle est mal interprétée déjà. Donc il y a un moment pédagogique, c'est ce qu'on appelle tout bêtement l'éducation. Recevoir une éducation. L'instituteur, hein, ça, c'est un petit peu ça. L'instituteur, c'est bien sûr celui qui communique, transmet des savoirs, histoire, géographie, mathématiques, français, en France. Mais c'est aussi celui qui introduit un certain nombre de valeurs, de respect d'autrui, etc. Donc, on ne peut pas, visiblement, séparer l'existence des règles morales de leur transmission.
Leur transmission, de leur codage et de leur respect. Comment on peut établir après le lien entre justement une population où ce travail-là ne se ferait pas et les résultats, enfin le résultat qui en découle. Oui, qu'est-ce que peut devenir une société s'il n'y a pas toute cette mise en place
je crois que malheureusement, on a des pays, là, sur la planète, aujourd'hui, là, ou des endroits chez nous, où effectivement, une certaine perte de valeur, des valeurs, conduit à une sorte de délitement, c'est-à-dire que ça a pour conséquence développement des violences, des actes assez irrationnels et en règle générale dangereux. Thank you. Baden-Powell, mania de carnaval. C'est le mercredi matin, le mercredi des cendres après la fête. C'est l'album Tristeza on Guitar 1966.
RCF, l'œuf et la poule, Olivier Horry.
Olivier Horry avec Odile Autré, notre chère compagnie pour cette conversation philosophique qui, même qui cause de morale et qui en est arrivée à se demander si la morale pouvait être conçue indépendamment de sa transmission. Et nous sommes arrivés tout à l'heure au point où nous demandions ce que pourrait bien devenir un groupe humain sans représentation morale.
Donc on pensait, là on a établi à peu près qu'un groupe humain où rien ne serait transmis, il n'y aurait pas de morale, pas de transmission morale, on aboutirait à un état assez proche du chaos, assez rapidement,
ouais.
Ou pas. Pas forcément rapidement, mais enfin, on ouais. serait dans un état proche du chaos. A contrario, qu'est-ce que donnerait un endroit, sans parler d'état, mais un endroit où la morale serait presque intégrée ouais. au comportement ? Est-ce qu'on arriverait à un endroit stable, avec une espèce de régulation personnelle ou automatique de ses envies, de ses pulsions, de ses... de ses ambitions, est-ce qu'on arriverait à un état relativement stable ?
Là, on se prend à rêver, en fait, hein, d'une certaine manière, oui. Non, mais c'est un peu, oui, ce qu'on voulait investiguer un tout petit peu. À supposer que des règles morales, des représentations morales légitimes et acceptées soient transmises... comme vous dites, à un endroit donné et puis dans un temps donné aussi. Hein, ça serait un moment de l'histoire d'un groupe où... qu'est-ce qu'il adviendrait ? C'est quand même curieux que devant une telle question, cherchant une réponse donc à cette question, personnellement, il me vient des images de fiction, hein, d'utopie, etc. J'ai vu très récemment un film, Je suis toujours là, qui se passe au moment de la dictature des généraux au Brésil. Et le film commence par la présentation d'une famille, un beau couple, 5 enfants, échelonnés sur une bonne dizaine d'années, les enfants. Et quand le réalisateur filme cette famille, on se dit « voilà ». Un lieu, voilà un moment où on nous représente ce groupe, la famille, dans lequel, effectivement, les lois morales semblent admises. Et alors, évidemment, ce qui ressort d'un tel état, c'est l'harmonie, la paix, la justice. Le dialogue, on se prend à rêver inévitablement. Voilà, je crois que c'est un peu ça le résultat.
Voilà. Alors, par contre, est-ce que c'est transposable d'un groupe, enfin d'une famille où il y a déjà un passé, on peut dire. Comment on peut transposer ça sur une société avec la multiplicité des personnalités, des individus, des besoins et des désirs?
Oui, alors c'est effectivement, on va peut-être finir sur ça. Déjà au niveau d'une famille, ça paraît tout à fait idyllique voire utopique. Alors au niveau d'un groupe plus important, ça paraît encore plus problématique. Mais je crois que il faut se méfier des fausses pistes. C'est-à-dire que la diversité des individus et des conditions, bien loin de nous éloigner de la possibilité d'un établissement des règles, nous en rapproche à cause de la richesse qu'implique cette diversité et qui, à mon avis, a toutes les chances d'être beaucoup plus féconde que quelque chose d'assez anthropique, dégradé et qui vaudrait au sein d'une toute petite communauté comme une dictature locale ou une famille tordue, puritaine ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc je pense que contrairement à certains discours qui prévalent parfois à certains endroits, je pense que nous pouvons plaider pour une diversité féconde dans l'établissement des normes morales. Enfin, il me semble.
Oui, oui.
Odile Autré, je vous remercie.
Je vous en prie.
Je remercie Vincent Guigon qui réalise tout ça. Nous avons entendu des annonces un peu plus complètes. Bill Evans en compagnie d'Eddie Gomez à la contrebasse, d'Eliot Zygmunt à la batterie dans l'album You Must Believe in Spring 1977, août 77, album posthume. Sorti en 1981. Et puis Baden Powell, l'album Tristeza on Guitar, c'était Mania de Carnaval, enregistré à Rio en juin 1966. Merci à Landy Unger, qui est l'ange musical de l'œuf et la poule et qui choisit la musique. Ciao, ciao.